m'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. La semaine dernière, le Premier ministre Samalo Kondé a présenté le bilan des 100 premiers jours de son gouvernement. Dans son mot des circonstances, il a promis d'être à l'écoute des Congolais qui souffrent et a fait remarquer que le gouvernement a mis en place des mécanismes pour appliquer son programme. Selon vous, quel est le bilan de l'action du gouvernement des Warriors 100 jours après sa mise en place? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Dieudonné Nyangasa sur la mise en onde de cette émission réalisée par Jocelyne Mukendi et ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Patrick Muyaya, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour J.R., bonjour tous les auditeurs de Radio Okapi.
Vous êtes ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Après les 100 premiers jours du gouvernement Samalou Kondé, dans lesquels vous gérez les ministères de communication et portez la parole de ce même gouvernement, dans quel état d'esprit sont les ministres 100 jours après?
Écoutez, les ministres sont dans un état d'esprit qui ressemble à l'état d'esprit du premier des Warriors, parce que c'est comme ça qu'on nous avait surnommé le premier ministre, déterminé à l'ouvrage, au travail, parce que nous pensons que nous devons donner de notre meilleur pour les Congolais, pour la République démocratique du Congo, dans les cadres de nos compétences respectives. Et vous avez suivi à ces propos le point, l'interview que le premier ministre a accordé, où il a eu l'occasion de dresser les grandes lignes de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans le pays. Nos états des lieux ont été déjà établis et nous sommes résolument en train de travailler pour apporter des solutions aux problèmes du peuple congolais.
Aviez-vous l'impression d'avoir gardé la main sur tous les secteurs de la vie?
Garder la main, sûrement oui, parce que nous avons en tous les cas les yeux sur tous les secteurs de la vie, nous suivons de près. Mais il ne faut pas oublier ici la part de l'héritage. Ça veut dire que nous faisons face à des défis qui sont liés à l'existence même de l'État en termes d'incarnation, d'autorité et de tout ce qui va avec. Ça fait beaucoup d'années qu'il n'y en a pas eu, mais nous travaillons à les restaurer, nous travaillons à les renforcer.
Alors, dans ce monde des circonstances, le Premier ministre a promis d'être à l'écoute des Congolais qui souffrent. N'est-ce pas là un aveu d'impuissance face à cette problématique des conditions de vie difficiles de la population congolaise depuis des lustres?
Ce n'est pas un aveu d'impuissance parce que le Premier ministre lui-même, il est Congolais. Il n'y a aucune condition de vie des Congolais que le Premier ministre ne connaît pas ou que nous aussi, ministres, nous ne les connaissons pas. Vous savez d'où tous nous venons. Nous venons de la société congolaise. Nous connaissons les défis qui sont les nôtres. Le Premier ministre, depuis avant sa nomination, après sa nomination et nous, ses ministres, nous sommes constamment à l'écoute de Congolais, mais cette fois-là, nous avons la responsabilité de travailler à améliorer leur quotidien et c'est une tâche sur laquelle nous nous attelons matin, midi et soir avec les ressources disponibles, mais nous avons la volonté ferme de donner de notre meilleur.
Alors concrètement, quel est le bilan sur le plan économique?
Écoutez, la question du bilan sur le plan économique est une question complexe, mais ce que je dois vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu par exemple que nous avons fait aboutir le programme avec le Fonds monétaire international. Vous avez vu tout ce que nous faisons comme effort en termes d'amélioration des réserves d'échange. Aujourd'hui, nous avions trouvé 3 semaines. Aujourd'hui, nous sommes à 7 semaines. Vous avez vu tout ce qui s'est fait comme nettoyage, tout au moins au niveau de nos entreprises publiques, avec des décisions, des suspensions consécutives aux enquêtes qui ont été menées par l'inspection générale des finances. Nous nous attelons à aller vers la diversification de l'économie parce que le ministre de l'Industrie a présenté un plan directeur d'industrialisation parce que nous pensons que la clé, c'est finalement l'économie diversifiée avec en ligne de mire l'agroalimentaire, donc l'agriculture, le sol doit prendre la revanche sur les sous-sols comme le dit souvent le président de la République. Voilà un peu un ensemble de choses qui ont été faites et qui sont en cours, qui nous permettront dans un délai raisonnable à commencer à donner des résultats que les Congolais percevront. Vous avez vu, et pour terminer sur ce sujet, vous avez vu par exemple que ce week-end, le gouvernement a trouvé un accord avec les transporteurs aériens qui vont baisser le coût du billet. On n'a peut-être pas amélioré encore les salaires, mais on a renforcé le pouvoir d'achat de Congolais, tout au moins pour ce qui concerne les prix des billets d'avion.
Mais votre gouvernement n'arrive toujours pas à accorder les violons avec les opérateurs économiques, surtout ce qui importe, les surgelés.
C'est pas que nous n'arrivons pas. Les discussions sont en cours parce que nous sommes dans un régime démocratique et nous discutons avec toutes les sociétés ou les corporations qui sont impliquées dans la fixation du coût. Mais une chose est sûre, c'est que les prix baisseront parce que dans la structure des prix, nous avons remarqué qu'il y avait des éléments qui ne devraient pas y figurer, qui y figurent. Maintenant, le gouvernement, à travers le ministère de l'économie, est en train de discuter avec les différents importateurs. Je suis sûr qu'un accord sera trouvé et les prix vont baisser.
Alors, la question également des transporteurs, comme vous l'avez dit, les compagnies aériennes, toutes ne sont pas d'accord, si ce n'est que quelques-unes.
Le problème, c'est que le gouvernement traitait avec des interlocuteurs. L'interlocuteur du gouvernement, c'est l'AFEC en l'occurrence, parce que c'est l'AFEC qui réunit toutes les entreprises qui travaillent dans les secteurs. C'est clair qu'il y a sûrement des frustrations, mais c'est des choses. Vous avez dit en début de cette émission que le Premier ministre était un homme à l'écoute. Nous allons rester à l'écoute, y compris de ceux qui sont frustrés ou qui pensent que leurs affaires ne seront pas faites. Mais là, il y a un arrêté, une décision gouvernementale qui a été prise. Il y a des ponts qui sont établis en termes de conversation et de discussion. Cela va continuer jusqu'à ce qu'on soit en mesure d'être sûr que la mesure soit de pleine application par tout le monde.
Et la question sécuritaire et diplomatique?
Écoutez, la question sécuritaire, c'est la première grave décision qui a été prise depuis notre nomination. On a lancé la question sur l'état de siège. Sur l'état de siège, il y a des choses qui doivent être dites, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui tendent et qui veulent semer la confusion dans l'opinion. L'état de siège est une thérapie de choc pour une situation qui dure depuis 25 ans. La situation à l'Est a commencé à pourrir peu après le début du génocide rwandais en 1994, il y a 27 ans, et puis il y a eu les guerres successives qui ont commencé à redescendre depuis 1996. Et toutes ces situations ont permis l'éclosion de tous ces groupes armés, de tous ces mouvements rebelles et tout ça. Et aujourd'hui, c'est à quoi nous faisons face. C'est plus que les groupes armés, c'est du terrorisme. Vous avez vu vous-même qu'il y a des attentats qui se font sur des églises. Vous avez vu des kamikazes se faire exploser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'une mobilisation mondiale autour de la situation sécuritaire qui se prévaut là-bas. Nous prenons la situation de l'état de siège qui nous permet, par exemple, aujourd'hui, les gens ne font peut-être pas attention, mais on a plus de 3500 miliciens qui se sont rendus. N'eût été l'état de siège, il ne serait pas, parce que l'état de siège, nous accroissons la pression militaire, nous voulons circonscrire la menace, ils répondent rapidement, mais vous savez, cher JR, et tous les auditeurs le savent, que la situation à l'Est ne peut pas s'y résoudre simplement du fait de l'état de siège. Parce qu'il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes liés à l'existence et à l'autorité de l'État, ils doivent être résolus en même temps. Nous y travaillons. Vous avez parlé de l'aspect diplomatique spécifiquement pour ce qui concerne la situation de l'état de siège. Vous avez vu le président de la République aller à la rencontre de son homologue ougandais parce qu'avec eux, nous devons échanger des informations pour lutter contre notamment les ADF qui sont des sens ougandaises. Vous avez vu le président aller à Gisenyi et vous avez vu le président rwandais venir à Goma parce qu'avec nos amis du Rwanda, il faut voir comment on règle la question des FNLR qui sont de sujets rwandais. Vous avez vu le président burundais envoyer son émissaire à Goma pendant que le président de la République y séjournait et lui-même venir faire une visite d'État à Kinshasa. Ça vous donne une idée de comment au niveau de la République démocratique du Congo, les questions sécuritaires, tout au moins avec le pays voisin, veulent être résolues. Donc, il y a une bonne part de diplomatie à ce niveau-là, mais au plan diplomatique, c'est aussi cette présidence de l'Union africaine bien assumée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est aussi une série de contacts. Vous avez vu, par exemple, parce qu'on parlait du terrorisme tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu, a pris part au premier sommet sur le lancement mondial de la coalition contre Daesh, contre l'État islamique. C'est aussi de la diplomatie. La diplomatie, c'est aussi les traitements de nos ambassadeurs et de nos chefs de mission diplomatique qui aujourd'hui n'ont plus d'arriéré de salaire, sont régulièrement payés et on voit comment revenir sur les arriérés, comment mettre à disposition à temps les frais des fonctionnaires dont ils ont besoin. Donc vous voyez que toutes ces choses, c'est des choses qui ont pu être faites en 100 jours, c'est plutôt des choses qui donnent un aperçu de notre détermination, de notre volonté politique à améliorer les quotidiens des Congolais.
À en croire vos propos, monsieur le ministre, donc le bilan est largement positif.
Je ne veux pas dire que le bilan est largement positif. Pour ça, vous savez pourquoi? Parce que le bilan serait positif lorsque le Congolais n'attendra plus aucun crépitement de balle, lorsque les problèmes sociaux seront résolus. Nous, nous appliquons une thérapie de choc, nous travaillons à apporter un début de solution à tout, parce que les solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo requièrent des investissements structurels énormes. Nous n'y sommes pas encore, mais on doit dire que nous avons fait des bons, nous avons fait des pas, et c'est clair qu'avec cette détermination qui nous anime autour du Premier ministre Sam Anoukonde, nous y arrivons.
Voilà, merci Monsieur le ministre. Nous vous gardons en ligne, le temps de poursuivre également avec les auditeurs qui ont leur vision ou leur perception des choses. Comme ça, on reviendra à vous pour un peu plus d'éclairage. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Donatien, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour la Radio Capi, bonjour Monsieur JR, bonjour à Monsieur le ministre qui est votre invité maintenant, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors quel est le bilan que vous voilà, quel est le bilan que vous vous dressez par rapport à l'action du gouvernement des Warriors, comme on les appelle, 100 jours après sa mise en place?
Merci beaucoup Monsieur JR de la question, merci de m'avoir accordé la parole. Vraiment ça fait très mal au cœur. Le bilan est mitigé, surtout celui économique qui est vilipendé avec l'affaire des dollars congolais. Parce qu'après les 100 jours de Sam Anoukonde, les francs congolais disparaissent progressivement. Les politiques congolais ont eu malchance de recevoir une mauvaise éducation. Dans la mesure où ils ne font pas ce qu'ils disent. Avant gouvernement warrior égale après gouvernement warrior. Jusque-là,
il n'y a pas encore après gouvernement. Nous sommes Camille Parcours, il n'y a pas encore après gouvernement warrior. Nous sommes pleins des dents.
Mais c'est sûr, quand je dis ça aujourd'hui, soyons quand même, disons-nous la vérité. Monsieur le ministre m'écoute maintenant. Quand il s'est appelé gouvernement des warriors, là, il fait les warriors. Bon, leur warriorité là, c'est dans quel domaine? Il y a une autre république démocratique du Congo quelque part qui me serve. Oui, mais c'est sûr, autre chose. La république démocratique du Congo est un pays très vaste. Un pays très vaste qui a besoin de dirigeants qui valent la peine. Si quelqu'un n'est pas capable de servir ce pays, il n'a qu'à démissionner ou bien refuser les postes qu'on lui donne, au lieu de prendre les postes pour ne pas bien servir le pays.
Voilà, vous avez évoqué les cas du dollar.
Quand je parle des dollars, il arrive aujourd'hui à dire que les dollars congolais, c'est parce que les fonds n'existent presque pas. Un dollar, même les francs, même vous, M. JR, même le ministre qui est là, il n'est pas travaillé pour
l'amélioration des conditions de vie.
Ou l'amélioration des conditions socio-économiques des professions congolaises.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Donatien, d'avoir appelé de Kananga. Alors, Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Vous avez suivi, monsieur le ministre, qui a brossé les bilans. Il a été quand même modeste en disant que ce n'est pas largement positif, parce qu'il y a quand même, certains, secteurs où il faut encore, multiplier des efforts afin d'arriver aux résultats. Mais quel est votre point de vue, Marie-Paul?
Oui, merci beaucoup pour la question. Et je vous salue d'abord, monsieur le journaliste, et je salue aussi votre invité ainsi que les auditeurs de la radio Capi. Alors, s'il nous revient de dresser le bilan de 5 jours de gouvernement sans Balokonde, le bilan est négatif. Et depuis, de telle enceinte que depuis l'investiture de ce gouvernement, issu de l'union sacrée pour la nation, ce gouvernement est dans le stade, reste jusque-là dans le stade d'incubation. Et avec des bonnes intentions de ses membres. On sent tous les membres de ces gouvernements donner ces impressions. Alors, nous constatons aussi, force est aussi de constater que ces gouvernements mis en place prennent les mêmes postulats que les gouvernements passés. Alors, ce qui est vraiment, monsieur le journaliste, c'est un désespoir total de la population congolaise.
Oui, oui, quand vous parlez, oui, Marie-Paul, oui, Marie-Paul, oui. Quand vous parlez de mêmes postulats, vous voulez dire quoi concrètement?
Alors, les mêmes postulats, ce sont les mêmes voies. Nous avons vu les gouvernements passés procéder dans les mêmes voies que ces gouvernements. Et compte tenu des temps, je ne voudrais pas ici m'enterner, mais ce que je dis ici, les mêmes modus operandi, modus vivendi que les gouvernements, les membres des gouvernements actuels font, ce sont les mêmes procédures que les membres des gouvernements. Des gouvernements.
Oui, donnez un exemple rapidement. Donnez un exemple rapidement. Donnez un exemple rapidement. Pour nous faire une idée très claire.
Peut-être la lutte contre l'impunité. La lutte contre l'impunité. Et la traque, je peux ici évoquer la maîtrise des effectifs. Et tous ces mouvements ont été faits. Mais nous sommes où? Nous connaissons les mêmes problèmes. Et ce sont les mêmes postulats que ces membres du gouvernement sont en train de continuer à enseigner.
Alors, vous estimez qu'il va falloir que le gouvernement change d'approche?
Oui, oui, justement, le changement d'approche, c'est un processus nécessaire dans notre pays parce que nous avons quand même marre des mêmes choses. Vous voyez les gouvernements passés et chaque gouvernement vient avec sa manière de faire des choses et avec son idéologie, mais nous voyons au finish que l'État n'avance pas, les gouvernements n'avancent pas.
Merci beaucoup.
C'est ce qui me pousse à dire que ce gouvernement a pris les mêmes postulats que les gouvernements passés.
Merci beaucoup. Alors, Marie-Paul. Marie-Paul, on ne saura pas aller plus loin, on prend Kalo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Kalo Gif, vous êtes en Boujmaï. Bonjour Kalo.
Oui, d'abord, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aux auditeurs de la radio de la paix. Pour ce sujet, moi je trouve que faire le bilan des 100 jours, c'est une précipitation à mon humble avis. Mais comme cela devient une coutume, nous n'avons qu'à dire un mot là-dessus. Imaginez pour un pays comme la RDC, à la dimension continentale, où il y a tous les problèmes en urgence, où on cherche des solutions, c'est-à-dire où le peuple même en question, nous, peuple, nous sommes tellement exigeants. Je trouve faire le bilan, c'est comme si on prend un gobelet d'eau pour le verser dans le fleuve Congo et chercher encore à le récupérer. C'est tellement compliqué. Mais malgré ça, le gouvernement a fixé des ambitions louable. Et les membres ne sont pas militants. Comme je l'ai dit avec le gouvernement social de Ilunga, chacun dans son secteur tente quand même de faire quelque chose. Ils sont en train de débloquer des blocages des anciens gouvernements. Je prends un cas. Quand vous prenez par exemple sur le plan économique, voyez par exemple, ils ont amorcé quelque chose que j'ai aimé moi-même parce que c'est mon domaine. Parce que quand on lutte contre la fixation des prix, des produits par exemple sur le marché, ce qui ne se faisait pas. Et voilà aussi, on annonce aussi si cela sera réaliste par rapport avec les transports aériens. Si nous allons au niveau de la diplomatie, M. le journaliste, regardez avec moi, il y a des accords signés avec les pays voisins, des pays que nous avons considérés de tous ces temps comme les ennemis jurés de la RDC. C'est là aussi, il faut les louer. Les plans sécuritaires, regardez vous-même les cas de siège à Moses, CO, ils ont osé quand même. Le fait d'oser, vous avez vu qu'ils ont quand même découvert quelques antivaleurs, entre autres les détournements, d'abord des fonds loués, d'abord à ces secteurs, pour les FRDC. Il y a même des ventes illégales.
Il y a eu même des arrestations de certains militaires.
Écoutez, monsieur, si le camp politique
voyez quand même, il y a quand même une collaboration entre les institutions. D'abord, une volonté manifeste d'organiser d'abord les élections, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. À mon avis, comme l'auditeur qui vient de parler, il doit savoir que dans les gouvernements passés réellement, il y a des choses qui se passaient réellement, mais actuellement, ils sont quand même en train d'améliorer certaines choses. Il faut les louer, mais faire un bilan par an. 100 jours, moi je trouve que c'est trop.
C'est trop précipité. Merci
vraiment.
Beaucoup, Kalo Kaloji. Alors, Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur JR. Bonjour également à l'invité. Bon, si nous voulons être sérieux envers nous-mêmes, c'est que le bilan du gouvernement, donc de Warios, 100 jours après, est presque mitigé. Au regard des actions, bien sûr, engagées jusque-là. Il faut dire tout de même que peu à peu, il se réarme hein, pour amorcer quand même l'offensive de grande envergure et surtout pour la matérialisation des grandes actions sur le terrain. On le voit d'ailleurs à travers certains ministres hein, donc qui initient, qui ont quand même des initiatives révolutionnaires, donc c'est-à-dire allant dans les sens montrer quand même certaines donc des griffes qui montrent que réellement les choses peuvent se dessiner bien. Mais si nous voulons entrer surtout dans les registres politiques, alors là, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment ici signifier, parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand nous remarquons, il y a juste là le climat donc qui ne semble pas être coordonné, le climat n'est pas tellement pacifique et bien coordonné dans sur ce plan, parce que vous voyez aujourd'hui, donc ça dit, le gouvernement doit quand même mettre en place une politique adéquate, surtout éviter cette politique d'exclusion là, parce que bien sûr la divergence constitue quand même les valeurs démocratiques et républicaines pour le pays, mais nous sommes en train d'assister vraiment aux discours incendiaires à gauche, à droite, dans les chefs de certains politiques. Alors, on les voit d'ailleurs, M. JR, il y a vraiment des discours colorés, il y a des planches colorées de tribalisme aujourd'hui, et il y a même certains politiques qui ne semblent pas amener un bon climat qui peut amener le pays à aller de l'avant. Alors, sur le plan politique et sur le plan économique, là, nous demandons au gouvernement de quand même faire un effort pour diminuer sensiblement l'importation, parce que la politique qui doit amener notre pays à aller de l'avant, c'est la politique donc de la valeur, donc c'est-à-dire la reconnaissance de la valeur monétaire dans notre pays, parce que vous savez que on est en train de donner de la valeur sur la monnaie étrangère au détriment de notre monnaie. Alors, vous voyez, le panier de la ménagère souffre. Aujourd'hui, l'économie n'est pas du tout stable, mais nous leur jetons des fleurs quand même pour des prouesses déjà engagées jusque-là. Nous voyons qu'il y a quand même des signes qui peuvent montrer de bonnes choses. Mais sur le plan sécuritaire, en tout cas, nous les félicitons. En tout cas, ils ont fait de bonnes choses. Mais dernièrement, il y a quand même une mauvaise goutte ici à Lubumbashi où je vous parle, parce que il y a le phénomène kidnapping qui vient remplacer l'insécurité. Parce que autrefois on décriait l'insécurité ici sous la ville de Lubumbashi, mais maintenant là, en tout cas, je vous assure que nous n'avons pas où mettre les pieds au jour d'aujourd'hui. Même les grandes personnes, dernièrement, comme hier, il y a une fille de 18 ans qui a été donc kidnappée, imaginez-vous là où nous en arrivons. Donc c'est aussi une forme d'insécurité, comme qui dirait, c'est aussi une deuxième vague qui vient renforcer, parce que la première, c'était la visée, c'était les biens matériels et argent. Mais aujourd'hui, c'est la visée, c'est la personne. On est en train de voler, de kidnapper les personnes. Voilà une autre forme de sécurité que nous devons décourager. Et nous
merci
voulons
beaucoup.
Que le gouvernement, lui qui définit la politique générale du pays, puisse normalement coordonner les choses totalement pour que qu'il soit relayé, des mesures pareilles soient relayées en province et surtout à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'on prévoit pour pouvoir calmer la tempête dans ce secteur?
Merci
disons,
beaucoup.
Dans l'ensemble, tout marche. Sur le plan diplomatique,
voilà,
vous savez,
voilà, on s'arrête là.
Sur le plan diplomatique.
Rapidement, parce qu'on ne saura pas vous laisser prendre tout notre temps.
Je disais, sur le plan diplomatique,
rapidement, une phrase.
Le chef de l'État a eu déjà à mettre des jalons. Et
voilà, vos prédécesseurs l'ont déjà dit.
Nous sommes en train de voir quand même des relations
merci
bilatérales.
Beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, Jérémy. 081-890-6330 ou encore les 081-890-49 pour participer à ces débats.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cet échange citoyen qui reçoit pour vous Mouyaya Patrick, qui est le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, vous êtes avec nous. Vous venez de suivre cette première série des auditeurs. Quelle est l'impression que vous avez d'entendre la population faire un tout petit bilan à mi-parcours de votre gouvernement?
Non, mais je sens que les impressions sont partagées. Il y a ceux qui voient que nous faisons des choses qui montrent que le pays avance. Il y a d'autres qui disent que le bilan est mitigé. Ça se justifie justement parce qu'au regard de la situation que le connaît le pays de manière générale, parce que vous savez, hier, la difficulté que nous avons, c'est que le peuple nous juge en fonction de son niveau de misère, en fonction de ce défi, et non pas en fonction de ce que nous on a pu faire avec les moyens qu'on a pu dès que nous sommes arrivés au pouvoir. Et donc, le miracle en son jour, c'est pas possible, mais au moins en son jour, on a permis de montrer la direction. Et la direction ici, c'est la volonté politique de finir la situation, la situation du terrorisme à l'Est avec l'état de siège. La direction, c'est des efforts qui sont faits parce qu'aujourd'hui, on peut tout dire, mais il n'y a plus, entre guillemets, un régime d'intouchable aujourd'hui. Tous ceux qui manipulent l'argent public, ils doivent faire attention parce qu'il faut faire de la lutte contre la corruption un levier important qui va permettre à la fois de mobiliser les ressources du pays et d'avancer. Je vois que on dit que nous sommes notre ami de Kisangani qui parlait de même postulat que le gouvernement passé. Bon, j'aurais voulu qu'il argumente, mais il n'y a aucune commune mesure ni aucune comparaison à faire avec le gouvernement passé. D'abord, parce que nous avons un premier ministre qui est jeune et la plupart des membres du gouvernement, notamment moi, nous sommes de cette génération-là où nous venons pour apporter des solutions. Et donc, la compréhension et la manière et la stratégie, les méthodes que nous utilisons, nous, avec les outils modernes des communications, ne peuvent pas faire qu'on nous compare avec le gouvernement précédent, parce que nous sommes venus avec une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Et puis, il faut savoir quand même que hier, il faut que nous tous, comme compatriotes, comme Congolais, soyons conscients de la situation de notre pays. Parce que je remarque fort souvent qu'on attend beaucoup du gouvernement. C'est vrai, mais d'où vient la force d'un gouvernement? La force d'un gouvernement vient de sa population et de la capacité de cette population à contribuer à travers le paiement des taxes et tout ça. Bon, je n'ouvrirai pas ce débat, mais il faut que les gens, nous tous, nous puissions être conscients du diagnostic. Je parle du diagnostic aujourd'hui, mais aussi de la part de l'héritage, du poids démographique, de comment la situation évolue. Nous n'avons pas la prétention d'amener des solutions miracles, même si on nous a surnommé Warrior d'ailleurs par un compatriote dans un conte parodie qui dit des warriors, parce que nous avons cette âme des guerriers qui veut nous conduire vers la solution. Alors le dernier intervenant qui a parlé un peu de questions politiques, vous savez, nous on est très 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 pris et très préoccupés à suivre les questions liées à nos compétences au niveau du gouvernement. Mais on observe justement cette forme de surchauffe des questions politiques et parfois d'ordre politicienne qui tendent à empoisonner les climats. Je crois que le Premier ministre l'a dit dans son propos en invitant tout le monde à nous surpasser. Parce que les défis auxquels nous devons faire face, les défis liés à la sécurité à l'Est, les défis alimentaires, les défis que nous impose la situation sanitaire, notamment avec le Covid, ne nous prédisposent pas à rentrer dans des polémiques de ce type. Le président de la République, en lançant l'Union sacrée, c'était justement la volonté de faire une union. Dans une union, on fait de la transcendance. Et donc, il faut considérer que le gouvernement condamne tout recours ou toute initiative qui tend à fragiliser cette union, qui tend à fragiliser ces retrouvailles de Congolais dans la transcendance pour nous permettre de trouver les solutions aux populations. Donc, il faut que les choses soient bien claires. Nous, au niveau du gouvernement, on s'attelle à l'essentiel et nous n'avons pas le temps à mettre dans les polémiques politiciennes. Alors, Notre ami a parlé aussi de la situation des kidnappings dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi. C'est des questions qui sont liées à la sécurité. C'est des questions qui relèvent de la police. Et je crois que de ce point de vue, le ministère de l'Intérieur, qui nous avait fait part de cette question au niveau du Conseil des ministres, a été instruit pour prendre les mesures qui s'imposent avec la police au niveau du Haut-Katanga. Et l'armée pourrait être mise en contribution pour lutter contre cette forme de banditisme et de criminalité. Vous savez, c'est pas seulement les kidnappings, c'est les phénomènes Kununa et d'autres phénomènes de banditisme urbain qui parfois peuvent aboutir à des drames que nous sommes censés combattre, que nous combattons, que ce soit à Lubumbashi, à Kinshasa ou à Matadi.
Alors, comment votre gouvernement s'y prend-il pour le respect du calendrier constitutionnel en matière des élections?
Écoutez, ce qui est bien avec notre constitution, c'est qu'elle fixe le rôle de tout le monde. Vous savez, pour ce qui nous concerne spécifiquement sur les questions liées à l'organisation des élections, notre volonté politique est claire. Le Premier ministre l'a dit et redit, nous voulons faire les élections dans les délais.
En 2023.
Qui sont connus, et bien évidemment. Mais vous devez comprendre mieux que nous de par rapport à la dynamique actuelle que la question de l'organisation des élections ne dépend pas seulement de nous. Nous, comme gouvernement, nous sommes prêts. Il y a une provision qui est faite mensuellement ou régulièrement au niveau du ministère des Budgets et des Finances pour financer les élections. Mais dites-nous, où est la structure avec laquelle nous devons parler élections? Aujourd'hui, le gouvernement n'intervient nullement dans les débats sur l'installation de la CENI. C'est un débat que nous suivons avec intérêt, parce que nous attendons de là avoir nos interlocuteurs avec lesquels on va discuter technique et organisation des élections. Mais on observe que l'Assemblée nationale et toutes les organisations qui sont censées travailler pour nous produire le bureau de la CENI sont encore dans des discussions. Et c'est des discussions qui prennent le temps. Bon, les moments venus, on nous le posera comme gouvernement, mais ici, les gens doivent comprendre que dans l'organisation des élections, il y a plusieurs acteurs. Et que, en ce qui, pour ce qui se passe en ce moment, le gouvernement est plutôt, entre guillemets, spectateur. Nous avons mis le moyen de côté. Nous attendons que les discussions autour du bureau de la CENI se terminent. Comme ça, nous aurons un interlocuteur qui viendra avec un plan concret qui nous permettra d'avancer vers l'organisation des élections.
En termes clairs, qu'est-ce que le gouvernement a mis de côté? Combien?
Il faudra peut-être que je me refère auprès de mon collègue du budget, mais il y a une volonté politique claire de faire une provision mensuelle pour permettre de préparer l'organisation des élections dans les délais.
De 250 millions, comme c'était prévu dans le gouvernement Matata Ponyo?
Je ne saurais pas m'hasarder dans les chiffres, mais la volonté est claire ici. Une provision est faite régulièrement pour permettre de financer le processus électoral.
Alors, si vous le permettez, monsieur le ministre, on repasse de l'autre côté de la baie vitrée pour ouvrir les standards et accueillir les deux autres auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Christian Politassi et Pierre Moussaferi depuis Goma. Alors, Christian, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Christian, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, JR. Allô?
Vous avez la parole, Christian. Quelle est votre contribution à ce niveau d'échange?
Merci de la parole accordée. D'emblée, moi, je dirais que vraiment, il serait très difficile de faire un bilan à ce niveau, parce que si ceux-là qui ont fait pratiquement 2 ans n'ont pas réussi, donc ont échoué, alors, a fortiori, les Warriors qui n'ont fait que 100 jours. Et déjà, dans l'historique même de cette évaluation trimestrielle au lendemain de sa mise en pratique par Roosevelt, vous constaterez que Roosevelt même n'avait pas réussi les 100 premiers jours de son mandat, parce qu'il manquait justement un certain nombre de préalables aux États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, la même question se pose avec acuité dans le cas de notre pays. Il nous manque un certain nombre de préalables. Nous ne pouvons pas aujourd'hui penser avoir un train TGV Kinshasa-Bandundu pendant que même les routes n'existent pas. Et donc, il faut d'abord réunir ces préalables. Mais à ce niveau, je préférerais plutôt faire une évaluation de ces 3 mois ou de ces 5 jours. Et je vais tirer au sort au moins 2 secteurs. Je prends les transports et l'agriculture. Dans les transports, vous verrez que les satisfaits sont non présents dans ces 2 secteurs. Dans ce sens que Ici, si on prend seulement la ville de Kinshasa, vous verrez que pour se déplacer d'un coin à un autre, c'est tout un problème. D'abord sur le plan de la qualité même de ces transports, sur le en termes aussi en termes de je dirais de la fluidité, mais aussi en termes du coût de ces transports. Chaque chauffeur fixe le prix selon son bon vouloir. Et au-delà de cet état des choses, les quelques programmes que le gouvernement avait lancé à l'époque sur les sauts des moutons n'ont pas résolu grand-chose. Et aujourd'hui, les embouteillages continuent encore à faire sa loi. Mais si on prend le secteur de l'agriculture, en tout cas, je me dis que l'assertion selon laquelle la RDC serait régorgée la majeure partie des terres arables, est-ce que cette assertion vraiment tient debout encore? Je crois qu'elle n'existe simplement sur le plan théorique, parce qu'en pratique, en tout cas, nous ne voyons pas que cette assertion est transformée justement à une réalité palpable. Et je me dis, peut-être, et c'est pour eux que cela soit justement la vraie cause qui donne aujourd'hui le caractère de tremblant au projet Boukangalonge. Parce que justement, on n'arrive pas à bien exploiter cette terre. Mais seulement, j'ai pour conclure, je dirais que quand nous avons une justice qui essaie un tout petit peu de renaître de ses cendres, nous pouvons dire que l'espoir est permis, à condition que chacun de nous essaie aussi de mettre la main dans la pâte. Et je vais pour insigner ou encore pour faire rigoler le ministre. L'année passée, je lui ai dit, monsieur le ministre, c'est danger 13, vous êtes là pour chercher des postes. Le ministre avait refusé. Et aujourd'hui, il est au gouvernement. Est-ce une réalité ou ça a été tout simplement une coïncidence? Bonjour à vous, monsieur le ministre.
Merci beaucoup, Christian. Que le ministre, vous avez d'ailleurs, je crois à cette question, vous avez répondu la fois dernière, quand il était au studio sur cette question. Mais je crois qu'il va encore vous réserver également une autre réponse par rapport à ça. Alors, Pierre Moussaferi, vous êtes à Goma. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, JR, et bonjour à l'invité, le ministre, et bonjour à tous.
Quelle est votre réaction 100 jours après la mise en place du gouvernement des Warriors, comme on les appelle? Et quel est le bilan que vous vous dressez?
D'accord, merci. Moi, d'entrée déjà, je dirais que 100 jours après l'investiture du gouvernement nommé des Warriors, moi, je trouve que le bilan est négatif. Parce que dans toute la population ne se retrouve nulle part. La misère continue avec la sécurité grandissante dans les pays en général. Et
donc, vous avez souhaité par un coup de bâton magique que les choses changent 100 jours après, comme venait de le dire Christian, même Roosevelt, l'auteur de cette théorie des 100 jours, n'a même pas pu réussir les 100 premiers jours à la tête des États-Unis.
Oui, ça ne veut pas réussir dans 100 premiers jours, mais on peut avoir des signaux, monsieur J.R.
Donc, vous n'avez vu aucun signal?
Bien qu'il
y a pas de signaux forts.
L'état de siège instauré par ce gouvernement dans l'est du pays, jusqu'ici nous ne voyons rien comme grand-chose. À profit,
mais la baisse de prix des produits de première nécessité, notamment des surgelés.
Et la baisse de prix,
des transports,
ça se voit au terrain, rien n'est fait, monsieur JR. Ça, il faut accepter quand même. Rien n'est fait sur le terrain. Nous le voyons seulement sur des décisions, mais en réalité, en pratique, rien n'est fait. Seulement, on a fait baisser le prix des vols de l'avion, mais comment on peut voler, on peut prendre un avion qui était Goma Kinshasa pendant que quelqu'un n'a pas mangé? Ça ne suffit pas. Quelqu'un est sécurisé, il va voyager comment? Et alors, moi je disais que là qu'il y a eu un peu de changement sur le côté macroéconomique qui a été caractérisé par
le retour du FMI,
dilapidé par MME dans les dépassements budgétaires. La gratuité de l'enseignement de base, la Banque mondiale ne cesse de financer. Mais les parents, jusqu'ici, continuent à toujours payer quelques sommes d'argent exigées par les chefs d'établissement. Est-ce que là, on dira qu'il y a la gratuité? Alors, côté diplomatie, bon, les accords sont signés et les coopérations sont faites. Mais jusqu'ici, la population ne se retrouve nulle part. C'est ça le problème. Pour citer, moi, je dirais ceci. Il est encore tôt de juger ce gouvernement de Jean-Michel Samalou Kondé qui n'a que 100 jours. Et je pense que ces 100 jours pourraient être une occasion de faire l'autocritique et l'évaluation au lieu de faire un bilan. C'est vrai, il y a eu un peu des avancées, mais ces avancées ne nous rassurent pas. Nous ne voyons pas grand-chose.
Voilà, nous allons poser cette question à qui est des droits, monsieur le ministre qui est avec nous. Quelle est l'autocritique que lui, il fait et quels sont les éléments qui nécessitent des ajustements? Merci beaucoup. Alors François, vous êtes à Mouika. Bonjour François. François, oui, François, vous êtes avec nous.
Merci beaucoup. Gérard Lungemou, une fois de plus, merci pour cette thématique. D'après moi, M. Gérard Lungemou, peut-être que le gouvernement Samalou Kone, c'est un gouvernement, selon moi, qui a une cotation assez bien. Pourquoi? Parce que...
Voilà, on ne saura pas vous retenir le plus longtemps parce que là, vous sortez entrecoupé, François, le temps que votre ligne s'améliore. Voilà, on va prendre plutôt Fariel. Fariel, vous êtes avec nous.
Oui, bonjour, M. Gérard, et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Quelle est votre réaction, Fariel?
Oui, M. Gérard, premièrement, nous devons d'abord nous poser la question qui est de savoir quel est le but de tout gouvernement. Donc, c'est à la suite de cette question que nous allons vraiment avancer les arguments. Le but de tout gouvernement est de chercher le bonheur de la population. Alors, si vous avez un gouvernement qui ne cherche pas le bonheur de la population, c'est un faux gouvernement. Le Premier ministre avait évoqué la question de la souffrance de la population congolaise. Donc, ici, ça nous amène à comprendre que le social du peuple congolais n'est pas assuré. Parce que si le social du peuple congolais est assuré à ce moment-là, nous allons comprendre que le gouvernement est réellement au service de la population. Mais vous voyez comment le peuple congolais souffre. Et c'est ça que le peuple congolais n'est pas assuré. Et le gouvernement a été taxé d'un gouvernement de Guéret, M. Gérard. Le gouvernement de Guéret, c'est bien. On peut donner le gouvernement tous les noms nécessaires, tous les noms possibles qu'on peut donner à un gouvernement. Mais les guerriers, ce n'est pas dans les bureaux. Les guerriers, ce n'est pas dans les discours. Mais les guerriers, c'est sur les terrains, en réalisant les promesses, en répondant aux questions de la population. C'est ça un gouvernement de guerriers. Pas rester dans les bureaux, faire des discours, inutilement non. Quand vous répondez aux attentes de la population à ce moment-là, c'est un gouvernement de guerriers. On a aussi évoqué la question des volcans de Mirangongo. Monsieur JR, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel qui ne peut pas vraiment bloquer les programmes du gouvernement. Le gouvernement est là pour trouver solution à tout problème qu'il rencontre. Mais si on évoque la question des volcans de Mirangongo qui bloquerait les programmes du gouvernement, à ce moment-là, ce n'est pas important parce que le gouvernement est là pour trouver solution à tout problème qu'il rencontre. Voilà au moins, M. JR, mon argument par rapport à ce sujet.
Merci beaucoup, Fariel. Alors, on revient à vous, Monsieur le ministre. Vous venez de suivre, il y a quand même d'autres appréhensions qui se sont ajoutées. Quelle est la réponse que vous réservez aux uns et aux autres?
Je crois que les uns et les autres, comme réponse, ils doivent simplement nous faire confiance. Comme gouvernement, nous sommes arrivés et je pense qu'en 100 jours, on ne peut évidemment pas établir un bilan global de notre action, mais en 100 jours, on peut voir si nous sommes sur une bonne piste ou pas. Ici, vous avez remarqué que selon les trois axes principaux du programme du gouvernement du Premier ministre Samalou Kone, c'est l'État fort. Et dans l'État fort, vous voyez qu'il y a des efforts qui sont faits dans la défense parce que même si aujourd'hui il n'y a pas encore de solution palpable à l'insécurité à l'Est, néanmoins il y a l'état de siège qui permet de mieux circonscrire la question, premièrement. Deuxièmement, l'État prospère. L'État prospère, c'est la dimension économique. Et au plan économique, je vous ai dit tout à l'heure que le programme a abouti avec, a été approuvé par le Fonds monétaire international qui nous donne accès à 1,5 milliard de dollars comme facilité de crédit. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin pour faire notre développement, mais les retours d'un programme avec le FMI nous donnent la crédibilité. Ça veut dire que nous avons fait preuve des rigueurs et des disciplines dans la gestion de nos finances. Et ceci nous donne la possibilité d'avoir accès à d'autres capitaux, à d'autres moyens qui nous permettront de régler les problèmes de nos populations. La troisième dimension du programme du gouvernement, c'est l'État solidaire. Par État solidaire, qu'entendons-nous? La gratuité de l'enseignement. Sur la gratuité, il faut que je sois très clair là-dessus. La volonté politique de parvenir à la gratuité de l'enseignement vaut de loin plus que tous les écueils que nous rencontrons. Parce que la Constitution de 2006, qui avait prévu cette gratuité, n'a vu cette disposition s'appliquer que 13 ans plus tard. Et ça, il faut le reconnaître, c'est grâce à l'implication personnelle du président Félix Antoine Tshisekedi, parce que lorsque vous faites la gratuité, premièrement, les enfants sont bénéficiaires, parce que les enfants ne sont plus chassés de l'école. Vous savez ce que ça peut représenter en termes d'humiliation pour un enfant que d'aller à l'école et ne plus pouvoir y avoir accédé parce qu'on n'a pas payé.
les parents sont soulagés. Parce qu'ici, c'est 4 millions d'enfants qui ont repris l'école. Les parents sont soulagés d'un poids qui est celui de prendre en charge les frais de scolarité des enfants. Les écoles qui vont percevoir ou qui perçoivent ce que nous on appelle les frais de fonctionnement, les frais de fonctionnement et d'autres frais liés qui viennent du gouvernement. Ça veut dire qu'ici, hier, les amis qui nous suivent doivent se rassurer qu'ils ont un gouvernement qui a pleinement conscience des défis qui sont les nôtres. Mais qu'ils ont un gouvernement qui hérite d'une part d'héritage qui est terrible. La situation sécuritaire à l'Est, nous l'avons trouvé. Pourquoi on n'y a jamais trouvé des solutions depuis 20 ans? Alors, je peux comprendre que les gens attendent de nous beaucoup, mais les gens doivent aussi comprendre que nous faisons face à une dure réalité, que nous avons trouvé des situations que nous n'avons pas créées. Les gens parlent du social, mais nous ne pouvons pas faire de social dans un désert économique. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'existence du plan, du plan directeur d'industrialisation, parce qu'on veut aller vers l'agroalimentaire et trouver des solutions. J'ai suivi un auditeur qui disait, on importe beaucoup, mais si nous voulons casser justement cette chaîne d'importation de ce que nous consommons au quotidien, nous devons produire localement. Produire localement, ça veut dire avoir de l'énergie, investir dans le sol, et tous les restes. Mais tout ça, ce sont des questions qui sont prises en charge et dont la résolution ne peut arriver qu'avec le temps. Moi, je veux vraiment inviter les compatriotes à nous faire confiance. Le Premier ministre Samane Konde l'a dit, et nous-mêmes, nous le disons. Et je pense que dans la manière de faire, y compris dans notre manière de communiquer avec le peuple, nous montrons que nous sommes dans une dynamique de changement. Les gens doivent nous croire et doivent avoir l'espoir que demain sera différent parce que nous avons justement pris le pari d'être ceux qui donneront de leur meilleur pour que les solutions durables se trouvent aux problèmes de Congo.
Alors, monsieur le ministre, on va écouter les deux derniers auditeurs et puis on va conclure ensemble avec vous. Alors, François, vous êtes avec nous?
Oui, merci.
Je crois que la ligne s'est améliorée. Alors, il faut aller droit au but.
Oui. Le deuxième gouvernement central de Fatih Diddy Wario, sous la direction générale de son excellence Samalou Kondé, selon moi, a une cotation d'assez bien et non de bien ou de très bien. Parce que, bien que confronté par un phénomène naturel, l'éruption volcanique et un fait sécuritaire, la guerre, les sociales devraient être possibles avant ces deux fléaux. Au jour d'aujourd'hui, les grèves sont répétitives dans la quasi-totalité dans tous les services publics de l'État, M. Jolungembo. La mise en place de la gratuité pose problème pour la prise en charge des enseignants. Le mieux serait de revoir l'enveloppe salariale des fonctionnaires de l'administration publique, rétablir alors le mode de vie des années 65-70 et réduire les trains de vie des décisions politiques au profit du peuple, lutter progressivement contre le chômage, mettre fin à la mauvaise gestion, faire un recrutement axé sur la méritocratie dans les services publics de l'État, notamment la PNC, FARDC et autres services, M. Jérôme.
Merci beaucoup François d'avoir appelé de Mweka. Là nous sommes au Kasaï. Alors Monsieur le Ministre, le retour en programme avec le FMI, est-ce une meilleure option? Monsieur le Ministre?
Oui.
Je parlais tout à l'heure du retour en programme avec le FMI. Est-ce une meilleure option pour la RDC?
Évidemment que c'est une meilleure option parce que le Fonds monétaire international est une institution conseil. Pour commencer, tous les pays du monde sont membres du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, le système financier mondial fonctionne suivant de règles. Et pour fonctionner, disons, avoir accès au financement dans les systèmes internationaux, il faut avoir une réputation. Il faut avoir une réputation, il faut avoir une discipline. Et le retour en programme avec les FMI donne justement un aperçu de ce que nous, on a implémenté comme discipline. Alors, les avantages sont multiples. En dehors de la facilité élargie de crédit qui va nous donner accès à 1,5 milliard, mais nous aurons d'autres financements, notamment de la Banque mondiale, pour financer des projets de développement, pour financer y compris la gratuité, et au-delà de ça, dans le cadre de la coopération bilatérale avec d'autres pays, nous pouvons avoir accès à d'autres capitaux qui vont nous permettre de financer le développement de notre pays. Parce que hier, Lingembo, qu'on ne se voile pas la face. Les enjeux liés au développement du pays aujourd'hui nous requièrent de milliards de dollars. Et ces milliards, nous pouvons certes mobiliser une partie en interne, encore qu'il faut des réformes. C'est sur quoi nous travaillons au plan économique, au plan fiscal, pour être sûr
que nous absorbons tout ce que notre économie produit, mais autant, on a besoin de lever les capitaux à l'étranger pour que ces capitaux viennent nous permettre de financer nos projets, notamment en agriculture, en infrastructure et dans tous les autres secteurs. Donc aujourd'hui, le retour du programme avec les FMI est un signe que nous sommes économiquement sur la bonne direction. Alors, j'ai entendu l'intervention de François, je pense, oui, qui parlait de l'éruption. Mais, mon cher JR, qui aurait pu prédire cette éruption? Nous avons eu les experts du monde entier qui sont venus et disent, mais on n'aurait pas pu venir voir venir cette éruption. C'est un phénomène naturel. Mais dites-moi, dites-moi, nous y avons fait face ou pas? Le Premier ministre était à Goma, c'est avec lui quelques jours simplement après l'éruption. Le lendemain de l'éruption, il y avait les ministres sectoriels qui étaient. Le président de la République y a séjourné pendant 20 jours. Et aujourd'hui, les génies militaires de l'armée ont construit 1000 maisons. Mais je ne dirais pas qu'il est mieux. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour apporter le soutien à cette population qui était marquée par une situation imprévue, catastrophe naturelle? Mais en même temps que nous faisons l'état de siège, en même temps que nous devons faire face au Covid, mais pour quel budget? Mais ici, il faut que ceux qui jugent le gouvernement regardent aussi les ressources que les pays mettent à la disposition du gouvernement pour régler les problèmes. On parle de la gratuité d'enseignement. J'ai reconnu qu'il y avait des difficultés, mais les difficultés ne sont pas comparables aux avantages aujourd'hui, hier, d'avoir 4 millions d'enfants qui auraient pris l'école. Vous connaissez ce que représente l'école, et vous savez que pour le président de la République, l'investissement dans l'humain, c'est le premier facteur de développement.
Alors, parlons de la mise en retraite des enseignants. 2 500 $ plus un congélateur.
Écoutez, il y a le ministre EPSP, Tony Mouaba, qui s'occupe de ces questions au quotidien. Il pourra vous dire davantage. Mais ici, il faut comprendre. Il y a des enseignants qui ont atteint les centenaires. Il y en a qui ont 80 ans. Ça veut dire que qu'est-ce que les pays offrent, justement? Parce que les enseignants, comme les médecins, comme les policiers, comme les militaires, pour moi, ce sont des héros que nous devons vénérer. Parce qu'en réalité, le pays ne leur donnera jamais assez qui correspondent à leurs sacrifices qu'ils consentent. Mais ils les font par devoir patriotique parce qu'il faut protéger les pays. Parce qu'il faut former l'avenir, notamment éduquer les jeunes. Et donc, il faut considérer que le gouvernement est de bonne foi et le gouvernement fait des efforts sur base de ressources disponibles pour essayer, justement, de donner des réponses à toutes ces questions.
Voilà. Donc, je crois que nous, on va conclure cette émission en disant, vous l'avez reconnu, monsieur le ministre, que le bilan n'est pas largement positif.
La question d'hier, ce n'est même pas dire que le bilan soit positif ou pas. Mmh. Ici, il faut reconnaître que nous avons fait des avancées. Parce que même si de notre point de vue, sur ce que nous aurions pu faire en 100 jours, tout a été fait, les jugements que nous pourrons avoir ne sera pas les jugements de la population parce que nous jugerons sur base des points de départ qui sont différents. Mais nous choisissons de nous aligner derrière les attentes de la population. Et par rapport aux attentes de la population, nous ne voulons pas faire du triomphalisme, entre guillemets, en disant que notre bilan est positif alors que la population croupit encore dans la misère. Ici, nous disons que nous avons fait des avancées, nous allons les consolider et nous allons progressivement continuer à trouver des solutions aux problèmes de nos populations.
Alors, que dire de la coordination, ou mieux, de la cohésion de l'action gouvernementale? On ne va pas se plaindre plus tard?
Non, je crois que vous avez vu vous avez parlé du débat politicien ou de débats politiciens qui existent et qui empoisonnent plus ou moins l'environnement. Mais vous avez vu aussi qu'au niveau du gouvernement, il s'observe une certaine sérénité, à l'image du Premier ministre d'ailleurs, qui incarne l'action de ce gouvernement. Et donc, il faut considérer que vous avez un gouvernement qui est plutôt engagé et préoccupé par le travail, par l'amélioration de la situation du quotidien des Congolais. Et nous voulons, nous, marquer d'une empreinte historique, parce que dans ce pays, cher JR, nous avons célébré cette année le 61e anniversaire de notre indépendance. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et à penser arriver à des résultats différents. Nous sommes dans une véritable dynamique de rupture que notre gouvernement le porte. Ce n'est pas en 3 mois que les gens pourront le remarquer, mais dans 6 mois, les gens comprendront qu'en République démocratique du Congo, il n'y a plus de temps pour de magouilles à la tête des structures publiques, que la justice fait effectivement son travail. En un peu de temps, les gens verront qu'en République démocratique du Congo, la sanction est restaurée. Regardez les résultats que nos régies produisent mensuellement. Ce n'est pas une conséquence de rien. C'est une conséquence d'une politique, d'une stratégie, d'une volonté politique. Et nos administrations donnent de leur meilleur pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes de Congo.
Patrick Muyaya, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, merci de nous avoir honoré de votre présence en ligne pour éclairer l'opinion des uns et des autres.
C'est moi qui vous remercie.
C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On prend rendez-vous avec vous dans un autre numéro de Parole aux auditeurs demain à la même heure sur la même fréquence.